Frédéric Mérand, bonjour.
Bonjour Sylvie Noël.
C'est un éclairage passionnant sur le fonctionnement au quotidien de l'Union européenne que vous nous proposez. Observateur embarqué ou stagiaire atypique, c'est comme cela que vous vous auto-désignez dans votre livre. Vous avez donc passé 2 mois par an entre 2015 et 2019 aux côtés de l'équipe du Français Pierre Moscovici, qui était alors commissaire aux affaires économiques sous la présidence de Jean-Claude Juncker, qui affichait l'ambition d'en faire une commission politique. Vous avez donc côtoyé ce cabinet pendant une période tumultueuse, car cette commission a dû gérer notamment les suites de la crise grecque, l'ancrage des partis eurosceptiques, le Brexit. Alors tout d'abord, Frédéric Mérand, vous nous présentez les Moscovici avec qui vous avez passé ces 4 années. C'est ainsi qu'on les appelle, hein, à la commission.
On les appelait aussi parfois le cabinet français ou les Moscou en anglais. C'est vrai qu'on a tendance au sein de la Commission européenne à donner le nom du ou de la commissaire à tout son cabinet, à toute son équipe, puisque d'une certaine manière, ils forment un seul corps, si vous voulez, et s'exprime de cette façon.
Alors, une vingtaine de personnes, et alors, ils sont divisés entre Parisiens et Bruxellois.
Alors ça, c'est effectivement une division que j'ai observée chez eux au fil du temps. Division à laquelle ils ne souscrivent pas tous et toutes, je tiens à le préciser, parce que eux ont l'impression d'avoir formé une équipe soudée, ce qui est vrai en grande partie, mais en même temps, c'est vrai qu'au sein d'un cabinet, on observe qu'il y a des gens qui ont une longue trajectoire européenne, qui ont passé des concours européens, qui ont souvent étudié au Collège d'Europe, qui se sentent investis à long terme dans le projet européen, alors que d'autres personnes viennent pour une période peut-être plus courte. Et là, dans le cas des Moscovici, c'était souvent des gens qui étaient plus proches du Parti Socialiste, qui avaient fait des grandes écoles ou Sciences Po en France, qui peut-être souhaitaient retourner en France et qui voulaient faire peut-être plus de la politique et un peu moins de construction européenne. Donc c'est très schématique évidemment, mais ça permet de comprendre non seulement leur investissement dans cette commission européenne et aussi un peu leur sociabilité sociale et leur trajectoire professionnelle, mais aussi leur vision du monde. Et ça a été très important dans mon projet d'observer que par rapport à des grands enjeux européens, souvent les Bruxellois et les Parisiens n'avaient pas exactement la même vision des choses.
Alors la crise grecque, vous y plongez en fait dès votre arrivée le 13 juillet 2015, car vous arriviez quelques heures en fait après la signature d'un nouvel accord avec le gouvernement du premier ministre grec Alexis Tsipras. Il faut préciser donc que cette équipe Moscovici, arrivant aux commandes en 2014, a donc pris en main un dossier que gérait l'Europe depuis 2009. Et au fil de votre livre, on voit comment cette Grèce, toujours dans la tourmente, les accapare, voire les épuise, certains vous le disent, hein, mais elle suscite aussi chez nombre d'entre eux des interrogations, des frustrations. Il y en a même qui vous disent « nous avons été complices d'un désastre ». Quel bilan finalement a posteriori dresse-t-il de la gestion de cette crise ?
Alors sans surprise, un bilan mitigé, et une chose qui m'a beaucoup intéressé dans le cas grec, c'est de voir l'envers du décor. Donc on connaît beaucoup le récit qui a été donné par Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec des Finances, qui dénonce finalement le rôle des institutions européennes. Et moi j'ai observé ces acteurs européens qui, en fait, étaient pris eux-mêmes avec des inquiétudes, avec des incertitudes, qui n'étaient pas toujours convaincus des actions qu'ils menaient, qui étaient pris aussi dans une toile de contraintes institutionnelles, juridiques, diplomatiques, au sein desquelles ils essayaient finalement de trouver une marge de manœuvre, de trouver un terrain d'entente avec les Grecs. Alors, ça n'a pas été facile. On ne peut pas dire que ça a été un grand succès si on se place du point de vue, par exemple, de la gauche ou de la Grèce. Mais pour beaucoup d'entre eux, ils sont allés aussi loin qu'ils pouvaient. Et donc, c'est ce que j'ai souvent recueilli chez eux. C'est cette espèce de débat interne à l'intérieur du cabinet, mais aussi souvent à l'intérieur des personnes mêmes qui sont déchirées entre le sentiment d'avoir donné un peu de marge de manœuvre à la Grèce. Mais en même temps, au final, on voit bien que ça a été plutôt une régression sociale à bien des égards, et ils en sont conscients.
Et on les voit, hein, on voit la Commission coincée entre les exigences du FMI et de la BCE, coincée entre l'opinion publique allemande et l'opinion grecque. En fait, vous écrivez, hein, cette Commission était vécue à Bruxelles et à Berlin comme solidaire avec les Grecs, trop clémente avec la Grèce, et puis considérée comme trop libérale à Athènes.
Oui, mais c'est quelque chose que j'ai pu observer autant à Bruxelles qu'à Athènes, en accompagnant le commissaire et son équipe. C'était le fait qu'il marchait d'une certaine manière toujours sur le fil du rasoir entre une sympathie réelle pour le gouvernement grec, de gauche comme le commissaire, comme tous les membres de son cabinet, mais aussi le sentiment d'être le dépositaire d'une position européenne qui n'était pas seulement la leur, mais celle de la Commission, des institutions européennes, et qu'il devait finalement convaincre les Grecs de mettre en œuvre. Et donc ça, c'est un autre enjeu qui m'a paru intéressant, qui trace, si vous voulez, un petit peu leur récit pendant 5 ans. Il faut le souligner. C'est quelque chose qui les a épuisés émotionnellement, même si ça les a souvent enthousiasmés professionnellement.
Vous avez recueilli des témoignages qui vous ont dit aussi que cette commission s'était beaucoup investie sur le dossier grec. Pierre Moscovici, par exemple, s'est rendu 12 fois en Grèce. Et donc, à propos de la Grèce, et vous en parliez tout à l'heure, Yanis Varoufakis, vous lui consacrez un chapitre. Elle a donc été ministre de l'économie grecque de janvier à juillet 2015. Et à la lecture de votre livre, on peut dire qu'il n'a laissé à Bruxelles personne indifférent.
Ah, ça c'est certain, il n'a laissé personne indifférent. D'une certaine manière, les membres du cabinet Moscovici, le commissaire lui-même, étaient ceux qui lui étaient a priori le plus sympathiques. Hein. Il faut rappeler que Yanis Varoufakis arrive dans le gouvernement d'Alexis Tsipras avec le projet de mettre fin au programme, au mémorandum qui avait imposé l'austérité en Grèce. Et il y a de la sympathie pour non seulement cette position, mais aussi l'attitude un peu du ministre qui est vu un peu comme une rockstar au début. Mais ce que je décris, c'est comment cette relation se détériore au fil du temps et se reconstruit avec le gouvernement Syriza, le gouvernement grec, après le départ de Yanis Varoufakis, quand s'impose l'idée qu'il faut, j'appelle ça dans un deuxième chapitre, construire une success story, c'est-à-dire trouver des compromis, élargir la marge de manœuvre, tout en respectant les obligations de la Grèce à l'endroit des Européens.
Enfin, ce qu'on vous dit sur Varoufakis, c'est qu'il il était en rupture avec toutes les règles, mais il n'a pas nécessairement compris l'écosystème système européen.
Ça, c'est un reproche qui lui a souvent été fait et qui m'a beaucoup interpellé, parce que l'objectif du livre, c'est de comprendre la capacité du travail politique d'élargir la marge de manœuvre des acteurs. Peut-on faire des choix malgré les contraintes institutionnelles, juridiques, économiques? Et le cas Varoufakis, le cas de la Grèce, est très intéressant à cet égard, parce que ils ont voulu, le gouvernement grec, mais aussi dans une certaine mesure la Commission européenne, ils ont voulu faire des choix politiques malgré toute ce qui leur avait été imposé par le mémorandum, par la Troïka. Et ça montre très bien les limites du travail politique, parce que à la fin, l'alternance politique s'est exprimée, mais elle n'a pas permis de faire non plus des miracles. Alors, est-ce que c'était le style du ministre grec des Finances? On l'a beaucoup dit. Dans mon livre, je conclus que c'est une partie de l'explication, mais il ne faut pas minimiser les contraintes institutionnelles et diplomatiques qui étaient réelles. Il n'est pas certain qu'un ministre autre que Yanis Varoufakis aurait obtenu bien davantage.
Vous dites oui, un ministre moins flamboyant n'aurait pas nécessairement obtenu davantage. Alors vous le disiez, Jean-Claude Juncker avait une ambition affichée quand il est devenu président de la Commission européenne, c'était de faire une commission politique. Comment cette ambition transparaît-elle dans la gestion du dossier grec? On voit au fur et à mesure le cabinet de Pierre Moscovici tenter, dans la mesure du possible, de donner du sens aux décisions de la Commission?
Oui, alors je pense qu'effectivement, cette commission politique s'est en partie exprimée par le désir de faire de la communication politique, c'est-à-dire de s'adresser directement à l'opinion publique avec des messages qui soient facile à comprendre. Et de ce point de vue, Pierre Moscovici est l'incarnation de la commission politique. Il est un des commissaires qui s'exprimait de la manière la plus politique. Et c'était vrai d'une bonne partie de son cabinet aussi, ça c'est vrai. Mais la commission politique, ce n'était pas que de la communication, c'était aussi, et ça m'a étonné pendant mon enquête de terrain, c'était aussi le rôle des partis politiques qui aujourd'hui, au sein de la commission, jouissent d'une influence assez importante, encore méconnue. Pourquoi essentiellement parce que la Commission est redevable devant le Parlement, donc elle doit faire adopter la plupart de ses programmes par le Parlement européen. Celui-ci est dominé par des partis politiques de centre-gauche, de centre-droit, et ça a percolé au sein du fonctionnement de la Commission européenne. Le commissaire Moscovici était un commissaire socialiste, le gouvernement grec, par exemple, était un gouvernement socialiste, donc il y avait des affinités partisanes qui se sont nouées à cette occasion. Mais la politique, c'est aussi, et ça je l'ai mentionné tout à l'heure, je pense, le fait de rappeler qu'il est possible de faire des choix, qui ne soient pas seulement des choix entre la gauche et la droite, mais qu'il y a une marge de manœuvre du politique par rapport à toutes les autres contraintes. Et ça, je pense aussi, de ce point de vue, ça a été un leitmotiv de la commission Juncker, de ne pas se laisser imposer des contraintes, soit par les États membres, soit par les institutions.
Et dans cette commission, il y a un autre dossier où la gestion plus politique que technocratique a été visible, c'est le contrôle des déficits budgétaires des États.
Ah oui, donc ça c'était à l'origine le grand portefeuille du commissaire aux affaires économiques et financières, c'est de mettre en œuvre le pacte de stabilité, la surveillance budgétaire. On en reparle beaucoup aujourd'hui depuis la pandémie de COVID-19, les fameuses règles budgétaires qui ont été levées. Et là, le paradoxe, c'est que pendant tout le mandat du commissaire Moscovici, son objectif était non pas de lever les règles budgétaires, mais de les appliquer de la manière la plus souple possible, ce qu'il appelait de manière intelligente. Et donc ça m'a aussi beaucoup intéressé de voir comment ce commissaire, soutenu par le président Juncker, a réinterprété d'une certaine manière le pacte de stabilité, qui est vu comme un carcan institutionnel, avec presque juridique et constitutionnel dans le cadre de l'Union européenne, mais en l'appliquant de la manière la plus politique possible, ce qui voulait souvent dire d'une manière un peu arbitraire, et ça lui a été beaucoup reproché par les tenants de l'austérité ou du pacte de stabilité, de la rigueur en Europe, qui sont quand même dominants, qui étaient, je devrais dire, dominants jusqu'à la pandémie de COVID-19.
En fait, la nouvelle doctrine, c'était tant que le pays fait un effort suffisant, il échappe à la condamnation pour un déficit excessif. En conclusion, Frédéric Mérand, Jean-Claude Juncker a-t-il eu raison de penser que la Commission devait être un acteur politique?
Je pense que sa lecture était la bonne et qu'il n'avait pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le rôle de plus en plus important que joue le Parlement européen, un rôle que le Parlement ne va pas abandonner volontairement, et avec la réalisation de plus en plus croissante de la part des Européens et des Européennes que la politique européenne crée des gagnants et des perdants, il est impossible pour une institution comme la Commission européenne de se retrancher derrière un discours neutre, technocratique. Ces décisions vont créer des gagnants et des perdants, et à partir de ce moment-là, elles sont politiques. Après, la Commission Juncker a été basée sur une équation qui fonctionnait très très bien, qui était la grande coalition entre les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates, qui était majoritaire au Parlement européen. Donc ça facilitait énormément le travail de cette commission. La situation est beaucoup plus compliqué aujourd'hui sous Ursula von der Leyen, puisque ces deux partis n'ont plus la majorité au Parlement, sont plus fragiles en Europe en général. On connaît les populistes, mais il n'y a pas que les mouvements populistes. Il y a les libéraux qui ont pris plus de place avec Renaissance en France, Renew, et il y a les Verts qui ont pris plus de place. Et donc, c'est plus difficile d'imaginer des coalitions majoritaires, mais avec l'application du plan de relance européen, qui va, encore une fois, créer des gagnants et des perdants, les enjeux sur les vaccins, etc. On voit bien que même Ursula von der Leyen, qui disait « je ne veux pas faire une commission politique, je veux faire une commission géopolitique », elle est ramenée, elle aussi, à des questions politiques. Alors, beaucoup de gens s'en inquiètent, notamment dans les pays où on pense que la commission ne devrait qu'appliquer les traités, être la gardienne des traités, être neutre, impartiale, etc. Mais je pense que c'est une évolution qui est inévitable et qui est, dans une certaine mesure, assez saine.
Merci beaucoup Frédéric Mérand de nous avoir fait partager votre voyage au cœur de l'Europe.
Merci, au revoir.